Recevons un fils de Yaoundé hein, dans quelques instants, oui, dans le cadre des Matins d'Africa. On va parler foot dans la Wandayance. C'était Prince Eyango, Prince Ndedi Eyango. You must calculer, souvenir, souvenir.
Africa.
Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
On va parler à présent sport dans le cadre de la Wandayance. Oui, je vous disais hier qu'il nous avait manqué, hein, mais bon, pour des raisons professionnelles, il n'était pas là avec nous, mais ce matin, il est bien là. Bonjour James.
Bonjour Phil.
Alors ce matin, nous avons un invité de marque, une légende du football camerounais, parce qu'il fait partie hein, de ces joueurs qui ont écrit de belles pages, hein, des lions indomptables. Quand je me rappelle encore de cette époque où on parlait de l'esprit de guerrier, l'esprit de combat, le fighting spirit, même si on retrouve plus cet état d'esprit dans la génération actuelle, mais lui, il faisait partie de cette époque-là. C'est Bernard Tutang, notre invité. Pourquoi le choix de Bernard ?
Voilà, donc je pense que Bernard Tutang, pour moi, il incarnait, comme tu l'as dit, hein, il fait partie d'une génération des lions indomptables qui ont fait rêver l'Afrique du football.
Ouais, champion d'Afrique.
Et champion d'Afrique, non seulement parce qu'il est champion d'Afrique, c'est quelqu'un que je connais très bien. On a déjà côtoyé quelques plateaux ensemble et puis il est dans une bonne dynamique. Et j'aimais beaucoup son style, on l'appelait ailier de débordement. C'est un style qu'on n'applique pas aujourd'hui, on ne pratique plus trop aujourd'hui tactiquement.
Ouais.
C'était avant, on jouait un 4-4-3 avec des ailiers sur le côté. Leur rôle, c'était de déborder son vis-à-vis et de centrer.
Ouais.
Et voilà, donc Bernard Tutang, c'était un spécialiste des ailes.
Il a eu de nombreux clubs, hein. Il a joué au Cameroun, en Turquie, aux Pays-Bas, en Ukraine, au Danemark, en Malaisie, en Israël, en Albanie. Il a fait tous ces pays.
C'est un globe trotteur. Et c'est très intéressant. Moi, je pense que c'était par rapport à la thématique du jour, ouais. Une thématique qu'on doit aborder, Phil. Il faut que je le dise, parce que la reconversion des sportifs de haut niveau passe pas seulement que les footballeurs est très important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas.
On ne parle pas assez, ouais.
C'est très tabou. Et mais c'est un véritable problème.
Ouais.
Moi, je pense que il y a comment dire.
Parce qu'il y a certains footballeurs qui, on va dire, terminent plutôt mal.
Tout à fait.
Ouais. Qui ne préparent pas leur
préparation. Donc, ouais. Pour moi, cette thématique, pour moi, elle est très importante parce que les sportifs, comme tu l'as dit, de haut niveau, non seulement quand ils sont actifs, doivent penser à leur carrière d'abord, mais ce n'est qu'après qu'ils pensent à l'après-football. Voilà. Et aujourd'hui, de nombreux athlètes se retrouvent sans solution. Lorsqu'ils sont en retraite, nous avons d'où l'importance, on va dire, de la préparation, de la reconversion professionnelle pour les sportifs de haut niveau. Donc, en règle générale, le sportif professionnel a une carrière assez courte, hormis quelques footballeurs, des pilotes de Formule 1, des golfeurs, des tennismen et quelques basketteurs. Leurs salaires ne sont pas mirobolants. Mmh. Et actuellement, en France, plus de la moitié des sportifs professionnels, soit plusieurs milliers, connaissent une situation de précarité et gagnent moins de 500 euros par mois. Il est donc primordial pour eux de cumuler un emploi et de préparer au plus tôt leur conversion en prévision de leur fin de carrière. Donc moi, je pense que c'est ce sujet-là, moi, en tant qu'ancien, je me rappelle très bien par rapport à ma reconversion quand j'y pensais. J'étais encore actif. J'étais professionnel. J'avais la chance dans mon dernier club, par exemple, au Paris Football Club.
Ouais, Paris Football Club.
Voilà, d'entamer de suite une reconversion en tant que joueur footballeur professionnel. Et c'est très compliqué. Il faut le dire parce que moi, je pense que les sportifs, on leur demande beaucoup. Être sportif professionnel, c'est un investissement énorme. Donc, on doit penser à la performance et on ne peut pas, d'une manière efficiente, cumuler la performance sportive qui impacte le physique, qui impacte aussi le mental. Et d'un autre côté, se donner à fond pour une reconversion ou bien pour continuer un cursus académique.
Alors nous allons introduire notre invité qui est déjà bien installé, qui nous écoute religieusement bien sûr. Bernard Tutank, bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup, l'honneur pour moi d'être là parmi vous. C'est déjà un très grand plaisir d'arriver dans cette maison qui est toujours joyeuse quand on entre. Il y a le sourire qui se dégage à des milliers de kilomètres et après accueilli par cette belle musique qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Je pense que quand on parle de Wandayance, lui faisait la partie de la Wandayance et me suivait depuis très longtemps. Donc merci beaucoup de m'accueillir.
Et je valide.
Alors, on va justement aborder très rapidement notre thématique du jour. Comment peut-on, ma foi, donc on est dans quel état d'esprit quand on sait qu'on va vers la fin de sa carrière et qu'il faut déjà penser à l'après-football? Psychologiquement, comment ça se prépare?
C'est très très difficile parce que tout simplement, comme Shams l'a superbement bien dit, quand on arrête une carrière, quand on a l'idée d'arrêter une carrière, il y a d'abord la frustration, il y a la peur,
la frustration,
il y a la crainte.
Ouais.
Le lendemain, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a l'habitude, un footballeur, c'est quelqu'un qui a fait une carrière de 18 à 20 ans, quand il a bien fait. D'autres font 5-6 ans. Et il y a d'autres, et des exceptions qui vont jusqu'à 35 ans de carrière ou 40 ans de carrière. C'est très très rare. Mais je pense que c'est entre 20 et 25 ans. Vous imaginez chaque jour, chaque matin, vous allez courir et taper sur un ballon pendant 20 ans. Et le lendemain, il faut arrêter.
Ouais.
C'est une frustration énorme. Moi, j'ai eu cette chance d'arrêter par rapport à une blessure. Donc, je vais dire...
Ah, c'est une chance d'avoir été par rapport à une blessure?
Moi, je pense quelque part. Parce que quand vous êtes blessé, vous êtes à la maison, vous voyez plus ou moins. Vous dites, OK, j'ai une blessure de 6 mois. J'ai le temps de préparer la chose. Parce que je suis à la maison, je tape pas sur un ballon. Donc, je suis un peu retiré des terrains.
Ouais. Mais quand on observe ballon, mieux
quand
les choses.
Quand on joue ballon tous les matins. Et qu'un matin, parce que... on est au banc de touche, l'entraîneur décide que voilà, on est plus performant.
Parce qu'en général, on est plutôt focus sur le foot, on ne pense qu'au football, on ne pense pas à autre chose. Donc on a du mal à imaginer autre chose que le football, parce que dans sa tête, on est formaté comme ça, depuis tout petit.
Certaines personnes pensent que le football, c'est taper sur un ballon. C'est pas que ça. C'est l'entraînement, c'est les contrats, c'est les discussions, c'est le management, c'est tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important de dire à certains footballeurs, surtout à la jeune génération, d'être très bien entouré. Moi, aujourd'hui, quand je pense à ma reconversion, ce n'était pas du tout facile. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que déjà, le joueur africain, il faut faire la part des choses. En France ou en Europe, on a tendance à donner l'opportunité aux joueurs, presque en fin de carrière, une reconversion. C'est comme dans un staff, où on prépare plus ou moins pendant un an. Nous, les joueurs africains qui venons ici jouer pro, en général, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les codes. On a grandi en Afrique, on n'a pas les codes. Quand on arrive ici, on vient jouer professionnel. On va d'un club à un autre. Shams l'a dit, il a eu la chance d'arriver dans un club, le Paris FC, où il y avait un président, il y avait toute une équipe autour.
Mais j'ai fait la démarche.
Et il a fait la démarche
j'ai
aussi.
J'ai fait la démarche.
Voilà, il a fait la démarche aussi. Parce que beaucoup de joueurs ne font pas. Parce qu'ils se disent toujours, demain, on va trouver autre chose.
Ouais.
Donc moi, c'était pas évident. Moi, je prends mon cas personnel, c'était pas évident. Quand j'ai arrêté en 2009, comme j'avais dit, c'était une blessure. Et quand j'ai recommencé, quand j'allais mieux, je me suis dit, est-ce que je dois encore rejouer ou pas? Il y avait la question que je me posais. Et j'ai possibilité de faire encore un dernier contrat. Quand vous êtes dans l'idée, je vais faire encore un dernier contrat.
Ouais.
Vous ne pensez pas à recommencer directement. Donc les années passent, ça m'a pris 3 ans pour exactement savoir ce que je vais faire. Donc aujourd'hui, en tant que conseiller sportif, moi j'ai dit à tous les jeunes, pendant qu'on est actif, c'est en ce moment qu'il faut préparer. Ouais. Et pour mieux préparer, autour de vous, il faut avoir une bonne équipe. Un conseiller, un avocat, un manager qui vous accompagne et qui permette que demain, un an avant la reconversion, vraiment, on s'oriente.
Donc ce que dit Bernard, il est très important. Et moi, je pense que c'est aussi le but de cette chronique, de cette thématique aujourd'hui, pas cette chronique, on va dire. Cette thématique, c'est justement, c'est commencer à sensibiliser. Il a dit quelque chose dans son discours, c'est que les codes africains et les codes occidentaux ne sont pas les mêmes. On a tendance à rêver en Afrique.
Ouais.
On se projette, on vit à travers ce qu'on voit à la télévision, à la radio. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le talent n'est plus le même. La perception ou bien la démarche pour être un sportif de haut niveau n'est plus la même qu'on avait avant, parce qu'il y avait des joueurs vraiment talentueux.
Alors, il faut dire,
passionnés.
C'est un aspect, permettez-moi, James, qui ne concerne pas que les footballeurs africains. On a vu au Brésil, par exemple, l'ancien attaquant de l'Inter de Milan, je ne sais plus comment il s'appelle.
Ah oui, le tueur, comment on appelle ça, le Adriano.
Adriano, par exemple,
qui
a très très mal terminé.
Qui a mal terminé, justement. Ouais. Moi, je vais finir.
On a vu un célèbre footballeur français qui dormait dans sa voiture, qui a été même champion du monde. Rappelez-moi son nom.
Il y a Gascoigne, voilà, par exemple, en Angleterre. Non, il y en a beaucoup, il y a des exemples. Ce que je veux dire, Phil, c'est que je vais finir un tout petit peu, c'est que la démarche aujourd'hui, avant, par rapport à ce qu'il a dit, c'est que les codes ne sont plus les mêmes. C'est très important parce qu'en Afrique, on rêve. Et ici, ce qu'il a dit, ce qui est très important, c'est que l'institution qui est en place a mis en place un processus de reconversion. Et c'est à chacun maintenant de pouvoir prendre la décision à un moment donné que je vais y aller et d'y penser. Et ceci, là maintenant, dans la perception, il y a le monde professionnel, il y a le monde amateur. Et ceux qui réussissent plus vite leur reconversion, ce sont ceux qui sont amateurs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas embrassé le monde professionnel. Ils sont entre les deux. Eux, ils réussissent mieux leur reconversion que les sportifs professionnels qui ne font que ça, comme il a dit tantôt Bernard, qui sont beaucoup concentrés dans la gestion, on va dire, d'une manière générale, de leur carrière, et qui ne se projettent pas par rapport à ce qu'ils feront après.
Est-ce que justement, Bernard, tout le temps, on ne se laisse pas un peu aspirer par la société d'une certaine manière? On a envie de garder un niveau de vie important. On dit non, on n'est pas prêt à lâcher, parce qu'on a le sentiment même que certains footballeurs africains, pour la plupart, jouent jusqu'à 40 ans, parfois 45 ans. Enfin,
Je pense que certaines personnes pensent ça, justement. Certains footballeurs, la majorité des footballeurs africains. Pourquoi? Parce que j'y reviens encore au code, c'est très important. Vous avez, quand vous êtes en Europe, vous commencez ici avec ce qu'on appelle le stade ou formation de football ou école de foot à l'âge de 14, 13, 15 ans. Vous êtes déjà préparé pour que dans 20 ans, vous arrêtez votre carrière. On vous dit déjà qu'à 35 ans, ça va commencer à être difficile, il faut que tu y penses. Pendant que tu fais ta formation, pendant que tu passes pro à 20 ans, tu sais déjà que dans 15 ans ou dans 20 ans, merci, je vais arrêter. Donc tu es préparé psychologiquement. Le footballeur africain qui arrive ici, ouais, il ne pense pas comme ça parce que lui vient. D'abord, il est souvent pas très bien entouré.
Ouais.
Et donc, il gagne de l'argent. Et nous, les Africains, sommes trop dans l'émotion.
Ouais. Mm-hmm. Lorsqu'il voit son collègue footballeur avec
une belle voiture,
il faut qu'il ait la même voiture.
La maman en Afrique vous dit, il faut acheter une maison parce que c'est important. Parce que
il y a aussi parfois la pression familiale au pays.
Oui, justement, je viens de ça. Les cousins, la famille, la belle famille qui dit non, il faut acheter les maisons. C'est comme ça que tu dépenses. Et puis, tu te rends compte qu'à un moment, tu as tellement dépensé pour les autres, tu n'as pas pensé à toi. Et tu rencontres, j'ai 35 ans, il faut que je pense à moi. Là, tu cherches encore un contrat. Ouais. Et tu arrives à 40 ans, tu veux toujours jouer. Parce que tout simplement, tu n'as pas mis des sous de côté pour toi. Donc, c'est l'émotion d'abord que tue le footballeur africain. Et en plus de ça, maintenant, la gestion, comme il a dit. Moi, je dis, notre gros problème, moi, j'ai le même problème. Ça, je ne cache pas. J'ai perdu beaucoup d'argent quand j'ai joué à Hollande parce que je n'étais pas entouré des bonnes personnes. Mm-hmm. On m'a dit, fais tel placement, j'ai fait tel placement, j'ai fait. À la fin, je me rends compte que j'ai perdu trop d'argent. Parce que je n'ai pas fait les bons placements. Pourquoi? Parce que je n'avais pas un conseiller, parce que je n'avais pas quelqu'un qui connaissait ma personne, qui connaissait ma situation et qui pouvait m'amener à comprendre que l'investissement que je vais faire par rapport à ma personne, ce n'est pas équivalent. Donc aujourd'hui, en tant que conseiller sportif, c'est ce que je fais.
Voilà.
Moi, j'amène toujours le football à comprendre d'abord.
Bernard Tsoutang, on va marquer une pause parce que nous allons partir à Dakar retrouver la rédaction de BBC Afrique pour un bulletin d'information et nous allons revenir juste après pour notre dossier spécial foot dans la Wandayance. Vous écoutez Africa Radio, il est 11h à Paris, tout de suite direction Dakar, retrouver la rédaction de BBC Afrique.
TikTok, la firme chinoise propriétaire de la populaire application de partage de vidéos, a déclaré qu'elle quitterait le territoire de Hong Kong dans quelques jours. Décision prise après la mise en application de la nouvelle loi sur la sécurité adoptée par Pékin. L'annonce intervient alors que Facebook, Google, Twitter ont confirmé qu'ils ne répondraient plus aux demandes d'informations sur leurs utilisateurs émanant du gouvernement et des autorités de Hong Kong par respect pour la liberté d'expression. Les utilisateurs des réseaux sociaux à Hong Kong ne cachent pas leur inquiétude.
Je pense que le gouvernement prendra des mesures contraignantes par rapport à ces plateformes de médias sociaux. J'imagine que nous ne pourrons plus utiliser ces applications dans un proche avenir.
Aux États-Unis, les procureurs de New York ont inculpé Amy Cooper pour délit de dénonciation. La femme a présenté ses excuses dans une vidéo. Une femme blanche sans raison appelle de la police, prétextant qu'un homme noir la menace dans un centre des États-Unis. Au Nigeria, la police fait savoir que des hommes armés ont tué 15 fermiers dans une attaque contre un village de l'état de Katsina. Au moins 200 personnes armées ont ouvert le feu sur des villageois qui travaillaient dans les champs. Au Ghana, c'est une première. L'opposition va présenter une femme à la vice-présidence, l'ex-ministre de l'Éducation, Nana Okopu-Aguéman, s'allie à l'ancien président John Mahama pour les élections du 7 décembre prochain. Et retour au Nigeria où le président Muhammadu Buhari appelle les autorités de son pays à intensifier les secours après deux naufrages le week-end.
Voilà, c'était le bulletin d'information hein, présenté par la rédaction de BBC Afrique. Nous revenons à Paris. Il est 11h02.
Africa.
Les matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
C'est la troisième partie des matins d'Africa au menu. Ange gras, la part de l'ange, ce sera pour tout à l'heure. Et ensuite, nous allons enchaîner avec coach Des Muller dans le cadre de votre traditionnelle émission des mardis Parlons Entreprise. Aujourd'hui, on va s'intéresser au télétravail. On va poursuivre notre dossier Wanda Yance. Nous avons une star du football africain avec nous, Bernard Tsoutang, ancien joueur des Lions Indomptables du Cameroun, génération dorée, hein, James, qui nous a amené donc cet invité. Ce matin, on parle notamment de la reconversion, hein, de l'après-football que deviennent certains footballeurs africains, justement.
Tout à fait, Phil. Un thème, comme je l'ai dit tantôt, qui était très important. Il faut qu'on sensibilise aujourd'hui. Il faut qu'on soit beaucoup plus dans une démarche de sensibilisation afin que nos petits jeunes sachent où ils vont et qu'ils se projettent au-delà d'une carrière professionnelle et qu'ils puissent atterrir après, on va dire, sur les deux jambes. Donc Bernard Tsoutang est là aujourd'hui pour
conseiller sportif.
Conseiller sportif parce qu'il a fait sa reconversion justement. Il a été dans cette logique aussi. Il a vécu, il s'est reconverti avec plus ou moins de difficultés. Donc on a la chance de l'avoir ce matin pour en parler, pour qu'il puisse conseiller ses jeunes frères. Justement
pour la suite. Voilà. Alors on va, nous avons un plateau hein, bien garni, bien fourni. Alors Isabella.
Oui, j'avais une question en fait. En tant que conseiller sportif, donc vous exercez ici en France et vous faites quoi du coup pour ces jeunes footballeurs qui n'ont pas les codes dont vous parliez tout à l'heure, qui sont en Afrique justement et qui gagneraient certainement aussi à dès maintenant essayer aussi d'avoir des codes dès le plus jeune âge. Donc vous faites quoi pour ces jeunes-là par exemple?
C'est toujours difficile de travailler en Afrique. Pourquoi? Parce que là-bas le gouvernement, parce que là-bas vous savez, le football c'est toujours géré par le gouvernement, c'est pas les fédérations, c'est pas le gouvernement,
c'est les politiques.
Donc les politiques qui gèrent le foot. Mais moi ce que je fais, je travaille beaucoup avec les agents sur place. Chaque fois qu'un agent me présente un joueur, je prends le temps de connaître le joueur et d'amener l'agent à dire ce que moi j'ai envie de dire au joueur. Donc je reste en contact avec le joueur, je commence à préparer le joueur déjà étant là-bas. Quand il arrive ici, il est formaté plus ou moins à ce que j'ai envie qu'il soit. Je vais prendre un exemple qui est simple. Aujourd'hui, en France, moi j'ai l'habitude de jouer avec des jeunes Camerounais au niveau de la porte des choisis. On fait un match trois fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, et je rencontre un panel de jeunes Camerounais qui ont pris la route, qui sont venus par des faux agents et ils racontent tous la même histoire. On m'a fait miroiter, on m'a fait croire ça, je suis arrivé ici, j'ai même pas d'essai, mon visa il est expiré, je sais même plus comment rentrer.
Ouais.
Donc c'est les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, moi j'essaie de faire comprendre à des jeunes là-bas, et même ceux que j'encontre ici, ne venez pas encore. Soyez sûr que quand un agent vient vous chercher sur place, c'est parce que vous êtes bon. Mmh. Et l'agent doit investir sur vous. La plupart des jeunes qui me racontent l'histoire, c'est après la même histoire. Mes parents ont prêté de l'argent, ont acheté un billet d'avion pour que je vienne. Je dis non. Un bon joueur de football, c'est l'agent qui dépense. C'est un investissement que l'agent fait. Je ne peux pas être agent de joueur au conseiller sportif. Il veut chercher un joueur. Ses parents payent pour lui. Ça n'a pas de sens. C'est moi qui dois payer. J'investis. Et quand le joueur arrive ici, je gagne par rapport au fait que le joueur va signer un contrat. Je vais gagner de l'argent. Mmh. Donc je suis sûr de mon poulain, sinon je fais pas du social. Si un joueur n'est pas compétent, je vais pas l'amener. Donc c'est un travail qu'il faut faire en amont et je fais ça avec les agents sur place.
D'accord. Et vous, excusez-moi, j'ai une dernière question. Et vous vous basez sur quoi pour sélectionner vos clients entre guillemets? Et est-ce que vous prenez que des sportifs professionnels ou même d'autres métiers que des sportifs, même si vous êtes agent sportif?
je suis plus footballeur. Mm-hmm. Côté football, j'ai fait les hommes comme les femmes, footballeuses aussi, parce que c'est aujourd'hui un football qui est en devenir. L'Afrique aujourd'hui, ils sont en train de professionnaliser le football féminin en Afrique, et je pense que c'est un traîneau. Donc j'ai des agents aussi en Afrique avec qui je travaille, parce que je travaille beaucoup en partenariat avec les agents. Mm-hmm. C'est très important. Mm-hmm. Moi, je suis conseiller sportif. C'est un peu un genre d'agent masqué. Mais le panel des conseillers, c'est que j'ai plus la chance d'avoir plus de joueurs que quand je suis agent. Quand je suis agent des joueurs, je ne peux pas venir chercher le joueur que chez MS. En tant qu'agent, c'est difficile. Mais quand je suis conseiller, je peux venir conseiller le joueur de chez MS. Donc le conseiller a plus de panels. Donc je travaille vraiment sur l'aspect football, que ce soit les hommes comme les femmes. C'est vraiment mon créneau aujourd'hui.
C'est ce qu'il dit, Bernard. C'est aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour du football, c'est très important que j'insiste encore sur des faux agents qui me font miroiter. Il y a niveau. Mm. Donc quand les agents, ces petits agents, ces deux agents qui se disent agents, parce que quand ils prennent ces joueurs, c'est pour leur faire venir dans des équipes de 4e, 5e niveau. Et du coup, quand on demande à un jeune localement de payer, ça veut dire qu'il n'a pas le niveau requis pour pouvoir prétendre avoir intégrer une équipe professionnelle. Il faut qu'il le sache. Et parfois, ils leur mentent. Parce que pour eux, qu'est-ce qui se passe pour ces agents? C'est d'avoir une multitude de joueurs qui, pour eux, ne vont rien coûter, puisque ce sont ces mecs-là, ce sont ces jeunes-là qui rêvent de l'Europe, qui payent les billets et qui viennent, on les place dans les petits clubs, on prend 1 000 euros par-ci, 1 000 euros par-là. C'est un emploi précaire et on laisse à l'abandon et on brise le rêve de certains jeunes qui se rendent compte sur place que ce n'est pas ce qu'ils pensaient.
Alors Bernard, tu tangues justement, comment faire pour freiner cet exode justement de ces jeunes qui se retrouvent à l'abandon, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, je connais quelques cas aussi de ces jeunes-là qui se retrouvent en difficulté au Portugal, en Espagne et en France. Que faire justement? Est-ce qu'il y a un moyen également pour pouvoir rattraper les choses?
Je pense que si. Vous savez, c'est très simple. C'est très simple. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le politique. Et j'ai dit en amont que le football en Afrique, c'est le politique. Si le politique, il veut, il arrête tout ça. C'est facile. Je prends mon cas, je reviens toujours à mon cas. C'est très bien de savoir d'où on vient. À l'époque, quand je quittais le Cameroun à l'âge de 18 ans, c'est parce que j'avais envie. Le football, c'était ma passion. Je rêvais. Mais je savais que le football allait nourrir ma famille. Donc quand j'allais professionnel, je savais que j'allais nourrir mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, mes cousins. Donc, si aujourd'hui en Afrique, je prends le cas du Cameroun, le football est professionnel depuis 2014, où il y a une loi qui précise bien que chaque club de foot, chaque président se doit de donner à chaque footballeur qui a un contrat 100 000 francs CFA par mois. 100 000 francs CFA, c'est 150 euros. 200 euros par mois. Mais les présidents de club n'arrivent pas à le faire. Si, à mon époque, je touchais 1 000 euros par mois au Cameroun, je ne sais pas ce que je devais aller professionnel à 18 ans. J'allais rester au Cameroun encore. Donc, je dis aujourd'hui, si les présidents de club, si le ministère du sport, si les fédérations, si le politique, il veut, il va arrêter tout ça. Il exige à tous les présidents de club de mettre un minimum de salaire. Ça peut être 500 euros par mois. Vous allez voir que beaucoup de jeunes ne viennent
pas.
Je
ne coupe pas Bernard, mais j'abonde dans son sens en ce qui concerne le Gabon. Parce que le Gabon était aussi un pays très prisé par les Africains. C'était un pays de tremplin. Voilà, parce que justement, il y avait un minimum. Il y avait beaucoup d'Africains qui venaient.
Il y avait un cadre,
il y avait des installations, on va dire, un peu plus propres par rapport à beaucoup de pays africains à l'époque. Mm-hmm. Ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Et il y avait un minimum. Il y avait des personnes qui touchaient déjà à l'époque plus de 3 000 euros par mois au Gabon. Et la majorité de beaucoup de footballeurs gabonais ne sortaient pas. Voilà. Pourquoi ils ne sortaient pas à l'époque? Et c'est exactement ce qu'il dit, parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi l'intérêt. Ils vont sortir, l'intérêt de sortir.
Regardez ce qui s'est passé au Congo, à Brazza, à Dolisie. Vous avez des clubs là-bas qui payent les joueurs 5-6 000 euros par mois. Mais pourquoi vous voulez qu'un joueur vienne? Le Tout-Puissant Mazembe, aucun des joueurs du Tout-Puissant Mazembe n'a envie d'aller en Europe.
Ça, c'est sûr.
Il gagne 10 000 euros. Pourquoi il va aller en Europe? Même si on dit Paris Saint-Germain, il va dire à Paris Saint-Germain, tu me donnes ce que je veux, ma condition. Parce qu'il est bien chez lui. Donc, 80% des footballeurs qui viennent ici, qui sont abandonnés, c'est parce que d'abord, c'est la misère qui les fait partir. S'ils ont un salaire de 500 euros par mois, ils ne vont pas venir. Ils vont venir quand ils seront prêts. C'est-à-dire qu'on va développer et le football africain et les équipes, l'équipe nationale du Cameroun, par exemple. Je prends l'équipe du Cameroun. Si le championnat est performant, l'équipe nationale est performante. Parce que le joueur va rester. Il va jouer 2-3 ans. Moi, quand j'ai quitté le Cameroun, j'avais 3 ans de première division. ma génération s'en fout. On avait 3-4 ans de première division. Aujourd'hui, le joueur Kiki de Cameroun n'a même pas joué un an. Il n'a même pas
il
deux
pas,
mois de première division.
Fini.
Il a fait un seul match de première division. Il a 17 ans. On l'a fait miroiter. Ah, oh, tu vas faire comme ça, le rêve. Ses parents sont endettés. Moi, j'ai une maman qui m'a appelé. Elle a pris 3000 euros de dette pour prendre le billet d'avion à son fils. Son fils allait en Malaisie. Et en Malaisie, il a été abandonné. Et en Malaisie, vous savez quoi, en Asie ? Il y a ce qu'on appelle la loi du overstay. C'est que tu prends un visa de un mois. Quand le visa, il expire, chaque jour que tu passes, ça fait 100 dollars. Chaque jour que tu es dans le territoire, le petit est resté plus d'un an.
Aïe, j'ai des amis qui sont en Indonésie depuis 20 ans, qui ne peuvent plus revenir parce que justement, ils doivent à l'État indonésien énormément de millions. Ils ne peuvent pas payer, donc ils ne peuvent plus rentrer dans le pays.
Moi, j'ai fini le cas,
J'ai mon ancien partenaire, coéquipier à l'USM du Gabon qui l'y est. Moi, je ne vais pas citer son nom.
Union Sportive,
J'ai fini avec ce jeune, le cas de ce jeune. Sa maman m'appelle parce que j'ai un petit faux Gabon qui connaît ses parents. Et il savait que je joue à Malaisie. Et je connais le prince de la ville où il joue. C'est un ami à moi. J'ai appelé le prince. Je suis désolé de t'appeler pour une histoire pareille, mais je suis dans le besoin. Il a fallu que le prince là-bas, d'exister des parents, il aille voir le magistrat, signer une lettre pour que le joueur il puisse sortir du pays. Voyez à quel point certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point ils affectent les parents.
La misère.
Donc, j'ai dit aux jeunes, faites très attention. Les agents qui viennent vous faire miroiter.
Est-ce que les parents aussi n'ont pas une grande part de responsabilité? Parce que, on a écouté quelques cas. Moi, je me rappelle encore on va le citer, Manuel Chéhi à Desbailleurs, ce qu'il nous a déclaré par rapport à cette pression familiale. Il a commencé très, très jeune. On est martelé par la famille qui veut de l'argent, qui ne pense même pas à vos performances sur le terrain.
C'est l'espoir, Phil.
Je dis, le footballeur africain, quand il commence tôt, il rêve d'être footballeur parce que tellement il est vraiment passionné, il aime le football en Afrique. Mais il arrive à un niveau où il sait que maintenant, à 17-18 ans, il peut passer pro. En ce moment, maintenant, la famille prend le relais. L'argent importe maintenant. Quand il vient pro, l'argent, on pense même plus à lui. Ils ne savent pas que demain, il va arrêter sa carrière. Il y a tellement d'exemples, mais ils s'en fichent. Pour l'instant, ils pensent à eux. Il faut les maisons, il faut les voitures, il faut ça. Et Adebayo, il a raison. Moi, je suis passé par là. Beaucoup de footballeurs africains sont passés par là. Et ça, je reviens encore à l'équipe qui t'encadre. C'est très important. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un joueur, je dis à les jeunes joueurs, j'ai la chance d'avoir des jeunes qui sont performants comme Aboubakar Vincent, avec qui je travaille quelques temps,
Vincent,
avec qui je travaille toujours, mon petit frère. Mais c'est l'un des joueurs que j'adore parce qu'il écoute. Moi, je ne gagne rien sur lui, mais j'ai du plaisir à le faire parce que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Quand tu as Aboubakar, fais attention. Il a tout préparé, plus ou moins. Et c'est un jeune qui va vous dire, tu vas dire, oh, il y a telle voiture, il dit, ah non, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a telle association qui a besoin d'aide et je vais partir aider l'association. Quand un garçon comme ça est dans ce monde-là, il n'y aura pas de surprise demain. Donc c'est très important que les jeunes footballeurs comprennent qu'ils ont d'abord des grands frères qui ont joué au football, qui ont fait des erreurs. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce qu'il a fallu que j'apprenne de mes erreurs.
Exact.
Et aujourd'hui, j'ai dit à tous les jeunes, n'ayez pas peur de venir vos grands frères. Nous, on vous conseille même gratuitement. On ne gagne pas sur les footballeurs, on gagne sur les clubs. C'est les clubs qui nous payent, ce n'est pas les footballeurs.
Exact.
Donc quand vous venez travailler avec nous, on est bien placés. Audience, c'est des parapluies, quoi.
On va clore le dossier, on va parler du report de la Coupe d'Afrique des Nations pour 2022. Ce sera toujours au Cameroun. Le point de vue de Bernard Tsoutang par rapport à ça? Par rapport à ce report?
Je pense que c'est une bonne chose. Désolé de le dire, mais je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'était pas prêt. Vous savez, on a ce problème au Cameroun récurrent de faire tout à la dernière minute. Aujourd'hui, on a déjà les infrastructures comme les stades. La Coupe d'Afrique des Nations, les stades, ce n'est que 10%. Dans une Coupe d'Afrique des Nations, le stade, c'est 10% à 20%. C'est l'organisation qui est autour du stade, c'est-à-dire les hôtels, les routes,
les transports,
l'aéroport, le transport. Partir d'un point A à un point B, et ça, le Cameroun n'est pas du tout prêt. Vous savez, on n'a pas de compagnies aujourd'hui, on n'a pas des routes aujourd'hui, ce n'est pas au niveau infrastructure, on est trop en retard. Donc ce report peut nous permettre, si on est conscient, je dis bien si on est conscient parce que la Coupe d'Afrique des Nations, on l'a depuis 2014. 2019, ça a glissé parce qu'on n'était pas prêt. 2021, je pense qu'on ne devait pas être prêt.
Ouais.
Donc le Seigneur, comme on dit souvent, il bénit le Cameroun. Donc on a encore un an pour préparer, pour faire tout ce qu'il faut.
On a eu la chance d'avoir Bill Chateau dans le cadre de JDA ici et il a affirmé, il a eu beaucoup d'auditeurs aussi qui avaient ton avis, mais Bill Chateau, il était optimiste. Bill Chateau, il est coordinateur des équipes nationales et donc il est dedans.
Excuse-moi,
je pense pense qu'il m'a même envoyé quelques photos des travaux, des grands travaux.
Des travaux avancés.
Moi, j'ai vu le stade déjà pour moi. Je l'ai magnifique. C'est, au niveau des stades, j'ai bien dit, on a 5 très beaux stades là. On peut jouer la Coupe de la Fédération. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais je vous dis, si une équipe arrive et qu'elle doit se déplacer de Garoua pour Yaoundé pour un match, elle prend quelle compagnie? Il n'y a pas de compagnie. Elle prend quel outil? Il n'y a pas de outil. Elle prend quel transport? Il n'y a pas de train. Donc arrêtons un peu. Béchato le dit parce que j'aime bien Bill. Il est aujourd'hui dans, qu'on appelle dans l'équipe dirigeante.
Le système.
Ça fait normal. Quand tu demandes à un ministre si le pays va mal, il va dire non, tout va bien. Donc Béchato dans ses.
Béchato fait la politique.
Non, il fait la politique à son niveau.
Tout le monde fait la politique un jour.
Mais je pense que Bill est à son niveau.
Merci. On va clore ce débat. En tout cas, merci d'être venu ce matin sur Africa Radio. Et demain, nous aurons un autre.
Ah oui, il y a un autre grand champion qui va être avec nous demain, ouais. Ibrahima Bakayoko.
Ibrahima Bakayoko.
L'ancien Marseillais. C'est un de tes joueurs, toi. Ouais. tu es un grand fan de Marseille. Donc, il sera là demain.
Je souhaite bien des choses à Ibrahima Bakayoko. Et c'est quelqu'un qui a.
Il est gentil. Il a fait une belle reconversion.
Très, très bon. Et il fait un très bon travail actuellement pour le football africain. Ouais. Disons-lui merci déjà. Merci beaucoup à vous.
Merci Bernard.
Merci Bernard.
Merci beaucoup
d'être venu dans la Wanderance. Et pour vous accompagner, j'ai choisi Mouta Teddy de Bendeka.
Ah, ça, c'est autre chose. C'est merci. Le parrain de la musique camerounaise. Merci beaucoup.